Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis Christine, je suis l'épouse de Monsieur Jean que vous voyez, qui est à côté de moi. Je fais partie de cette communauté et ça fait 28 ans que j'ai donné ma vie à Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. J'ai beaucoup de joie aussi d'être là pour partager. Ce n'est pas toujours facile pour moi de partager quelque chose à une communauté comme celle-ci, où il y a des personnes quand même qui ont un grand parcours de foi. On se dit qu'est-ce qu'on pourrait donner? On lit la Bible, on mène vraiment une vie de foi avec le Seigneur depuis plusieurs années. Qu'est-ce qu'on a à donner, à partager? Qu'est-ce qu'il y a comme... Qu'est-ce que j'aurais comme quelque chose de nouveau? Mais je pense qu'on le sait tous, on n'a rien à donner si on ne reçoit pas du Seigneur. Alors, dans ce cas, je me dis, Seigneur, tu connais la pauvreté d'abord de mon cœur à moi, tu connais les besoins de la communauté. Alors, si j'ai dit oui à partager quelque chose et j'ai besoin que tu me donnes une parole qui pourrait m'édifier moi d'abord et puis aussi pour pouvoir le partager avec les autres. Le thème d'aujourd'hui, ça rejoint un tout petit peu ou peut-être entièrement à ce que Thierry a partagé dans l'introduction. C'est tout tourne autour de la connaissance et de la vérité. Cette connaissance, en préparant ce message, je l'ai trouvé comme une clé pour le salut, pour notre salut. Il s'agit d'un verset qui est dans l'évangile de Jean, le chapitre 8, c'est le verset 32. Je vais vous le lire. Et puis, en premier lieu, je vais essayer de contextualiser ce verset, donc voir dans quel contexte ce verset se trouve. Et puis, on va voir un peu plus en brièvement ou en détail. Comme on n'a pas beaucoup de temps, j'ai choisi des éléments qui pourraient nous porter ce soir. Alors je vous lis ce verset. Vous le connaissez, je pense, tous. Mais d'abord aussi, j'aimerais vous dire, j'aimerais dire que ce soir, comme à chaque moment de culte, souvent quand je viens au culte, je viens vers le Seigneur et puis quand j'écoute, j'écoute pas forcément la personne qui parle. Je prie toujours que le Seigneur me parle au travers des paroles que j'écoute, que je ne prête pas attention surtout à ce qui est dit. Oui, c'est quelque chose que je reçois de la part de quelqu'un qui parle, mais je prie toujours, Seigneur, donne-moi un cœur ouvert à toi pour qu'au travers de ce que mes oreilles entendent, que je puisse aussi t'écouter ou t'entendre. Alors, j'aimerais vous inviter à faire cet exercice. Vous me connaissez bien, comme je viens de le dire, ne vous attendez pas à ce que je vous apporte un message extraordinaire. Ce qui est extraordinaire, plutôt, c'est je garde ce cœur ouvert que même ce que j'ai préparé, que le Seigneur, au travers de ça, puisse me surprendre, voire me déplacer dans ce que j'ai devant moi, et que vous aussi, au travers de ce que je vais vous partager, que vraiment le Seigneur habite nos cœurs, habite nos oreilles pour pouvoir recevoir quelque chose qui correspond à nos besoins. Alors, je vous lis le verset. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. C'est ce seul verset dont il est question ce soir. Mais pour bien le comprendre, je vais rappeler, comme je viens de le dire, c'est dans le chapitre 8. Et puis, on va essayer de se rappeler ce qui se trouvait dans ce chapitre 8 de l'évangile de Jean. Il est réparti en quatre, voilà, je l'ai partagé en quatre passages. D'abord, il y a donc ce chapitre 8, le verset 1 à 11, il est question de la femme adultère. Je pense qu'on se souvient du contenu et le discours qui est dans ce passage, là où dans ces 11 versets. Et puis, il y a encore un passage ayant comme le titre Jésus qui se présente comme la lumière du monde. Ce sont des versets 12 à 20. Et puis, la troisième partie, ce sont des versets 21 au 30. Le titre dit, c'est le départ de Jésus et le jugement. Il y a beaucoup de propos aussi tenus. C'est comme la suite du discours tenu dès le départ, donc dès le premier verset. Je n'ai pas soulevé beaucoup de choses à dire comme ça, mais il parlait de son rôle en tant qu'envoyé de Dieu. Et puis, il soulevait, comme dans d'autres passages aussi, avant et après, la question de la loi comme obstacle à la foi. Ici, dans ces versets 21 au verset 30, il était vraiment question de parler de lui-même et essayer d'attirer l'attention à ce que le fait de connaître la loi ignorera le rôle de Christ en tant qu'envoyé de Dieu, faire obstacle à la foi. Et la foi, c'est comme la clé de la connaissance de Dieu. C'est ce qui est contenu dans ces neuf versets, parce qu'il s'agit de versets 21 jusqu'au 30. Et puis la quatrième partie qui englobe notre verset, ce sont des versets 31 au verset 59, où le titre est dit « La véritable postérité d'Abraham ». Voilà, c'était donc notre verset se trouvait dans cette dernière partie du chapitre 8. Donc, c'est le verset 32. Alors, j'ai essayé de prendre quelques éléments dans ces quatre parties avant d'aborder notre verset. Les éléments que je trouvais dans ce contexte et qui pourraient nous aider à mieux comprendre ce verset. Si on prend les versets 1 à 11, les éléments que je trouve dedans qui pourraient nous aider peut-être à bien comprendre aussi à réfléchir sur notre parcours à nous. Dans ce passage où il est question de la femme adultère, ce sont des pharisiens et les scribes qui ont amené la femme pour la présenter à Jésus. Je vais parler plutôt de ces deux personnages, ces personnages, les pharisiens notamment, mais aussi les scribes, comme des personnes vraiment qui connaissaient, ou les docteurs de la loi. Ce sont des éléments que je peux retenir pour comprendre où je vais en venir par rapport à ce verset. Alors, les pharisiens, je pense que... on les connaît tous. Les scribes, je ne vais pas m'y attarder, mais ce qu'on connaît ou ce qu'on peut retenir, c'est que ces deux groupes de personnes ou de personnages, ils ont une bonne connaissance de la loi. Alors, le problème, c'est que cette connaissance de la loi devient, pour l'auteur de cet évangile, qui est Jean, la connaissance de la loi devient finalement un obstacle pour ce qui est la connaissance et la reconnaissance de Jésus en tant que fils ou envoyé de Dieu. Pourquoi? Parce que dans la loi de Moïse, il est considéré comme blasphème de se considérer comme un fils de Dieu parce que la loi dit que si peut-être on considère uniquement le Deutéronome, le chapitre 6, verset 4, où il est écrit « Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est le Seigneur un. » C'est-à-dire qu'en dehors de ça, on ne doit pas, vu comment dans l'évangile de Jean, Jésus se désigne souvent comme un fils de Dieu, il est le pain de vie, il parle beaucoup de lui. Je pense que ça agace le peuple juif qui connaît vraiment la loi et qui connaît surtout ce verset. En dehors de Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu. Donc on ne peut pas ouvrir le cœur à quelqu'un d'autre. On doit se référer à ce verset. Euh, Alors, la conséquence de cette fidélité à la loi, ce qui n'est pas mauvais en soi, la conséquence, c'est que on demeure ignorant, même en étant fidèle à la loi, en faisant ce qu'elle elle demande. Donc, face à la vérité divine révélée dans la personne de Jésus. Autrement dit, on peut dire que si on garde le titre ou le thème de notre partage, devenir libre. Donc, c'est comme si quelque part, cette fidélité à la loi, cette observance qui nous enferme, nous rend esclaves. Et ça nous empêche à ouvrir le cœur à la vérité, vérité révélée en Jésus-Christ. Alors, j'ai choisi de parler aussi de cet élément qui se trouve dans ce contexte dans lequel se trouve notre verset, la notion de la foule. Si on regarde dans l'évangile de Jean, le chapitre 7, le verset 49, le chapitre 7 qui précède le chapitre 8, toujours, on revient toujours sur la question des pharisiens et la question de la loi. C'est la controverse vis-à-vis de Jésus, vraiment, comment il se décrit, comment il se définit, ça n'a rien à voir avec ce que la loi demande. Du coup, ça devient vraiment un problème. Alors, pour parler du problème de la foule, alors comme je viens de le dire, Jean 7, 49, c'est la question aussi des pharisiens qui disent, il y a tout juste cette masse. Donc avant, donc c'était le verset 47, il demandait, c'est un rapport, il y a Jésus qui prêche, qui enseigne, et puis les pharisiens ne sont pas contents. Après, il y avait les gardes qui étaient là, qui voulaient arrêter Jésus, ils n'ont pas pu le faire. Au retour, ils ont donné retour aux pharisiens. Et puis, ils leur demandaient, est-ce que parmi cette foule, il y a parmi les gens qui ont cru en Jésus, est-ce qu'il y a les dirigeants, est-ce qu'il y a les pharisiens? Ils demandaient vraiment s'il y a quelqu'un qui connaît la loi, qui a pu croire en Jésus. Alors, les gardes, ils ont dit que ils ont donné cette réponse, il y a tout juste cette masse. Cette masse, donc c'est comme ça qu'on désignait cette foule qui n'avait pas grande connaissance, contrairement donc aux pharisiens ou aux grands prêtres ou aux scribes qui se considéraient comme vraiment des inélites, je vais dire, par rapport au reste du peuple. Alors, ils désignaient la foule ou comme il appelait le reste de la société comme des gens de la terre, c'est-à-dire donc, oui, ignorants par rapport à la loi. Et puis, les gardes, alors, ils ont dit que c'était juste quelques personnes de cette foule qui ont crié en Jésus. Alors, je pense que sans aller plus loin, ce verset 49, les pharisiens ont désigné la foule comme les personnes ou les gens maudits. Si vous regardez bien le verset 40, ou c'est toujours 49, je pense, il y a tout juste cette masse qui ne connaît pas la loi, que les pharisiens ont désigné comme des gens maudits. Alors, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que le fait de ne pas observer la loi pour les pharisiens, je dirais que ça, le fait qu'on s'enferme à l'observance ou à la connaissance de la loi, face à la venue ou à l'enseignement de Jésus, il y a l'incroyance qui s'accroît. Et qui dit l'incroyance dit aussi l'ignorance par rapport à la vérité qui est en Jésus-Christ. Alors, c'est un peu contradictoire, en tout cas, dans le sens où, face à l'enseignement de Jésus, les pharisiens ou d'autres personnes qui ont une bonne connaissance de la loi se prennent pour... C'est élite, mais je ne trouve pas le mot. Mais ils se croient mieux que la foule qui croit. Et puis, pour Jean,
il est considéré comme un croyant, alors que les pharisiens, à leur tour, considèrent ceux qui croient comme des ignorants par rapport à la loi. Je pense que, vous voyez où est le problème. Alors, ça, ce sont des éléments que j'ai pris par rapport à ces versets, mais il y a un autre élément aussi par rapport à ce passage qui décrit la scène de la femme surprise. Jésus, vous vous souvenez quand les pharisiens et les scribes l'ont présenté, cette femme, Jésus, comme il savait qu'on lui tendait un piège, soit il pouvait dire, allez lapider cette femme, ce qui était contraire à son message et qui compromettait. C'est comme s'il apparaîtrait comme s'il est contraire à la loi, ce qu'il ne voulait pas faire. Mais avec sa sagesse, il a préféré tracer les. Il a écrit par terre et puis il a trouvé cette phrase de dire qui n'a jamais péché parmi vous, lui jeter la première pierre. La notion du péché, c'est l'élément que je voulais soulever par rapport à ce passage. La notion du péché que Jésus semble soulever vis-à-vis des scribes et pharisiens met en évidence le vrai problème. L'observance de la loi de Moïse ne supprime pas le fait que l'homme est pécheur par essence. Autrement dit, la loi révèle ce qui est interdit, mais elle n'aura pas l'homme capable de ne pas commettre le mal. Alors, si on regarde un autre élément dans les versets 11 à 20 qui pourrait nous aider à comprendre le sens de ce verset, Jésus, comme il se présente comme lumière du monde. En parallèle, il soulève la question des ténèbres dans le sens où ces personnes qui se considèrent comme je suis désolée de ne pas trouver tout de suite les mots. Je dirais ses adversaires, dans le sens où connaître la loi devient un problème pour accepter le message de Jésus. Jésus, à son tour, dit qu'ils sont dans les ténèbres. Lui, il se décrit comme lumière du monde. Il y a de nouveau cette opposition entre la connaissance de la loi et l'ignorance de la vérité qui est en Jésus. Ce sont ces éléments que je voulais soulever pour montrer comment le discours se poursuit. Cette contradiction, cette controverse entre la notion de la loi et le message de Jésus qui aborde la question de la foi, plutôt de la vérité. Et puis, il y a aussi, on peut dire aussi, comme je l'ai dit plus haut, la loi ici, quand Jésus la désigne comme s'enfermer dedans, fait que les gens ils sont dans les ténèbres parce qu'ils n'ont pas connu la vérité. La vérité, c'est Jésus. Ici, la loi est désignée comme une entrave à la connaissance de Dieu. Alors, on revient sur notre verset 32. On peut se demander à ce mot connaître. C'est un mot qu'on connaît, mais si on essaie de le comprendre en partant du fait que déjà Jésus, il a parlé au futur. Il a dit, vous connaîtrez la vérité. Alors qu'il était question au verset 31, c'est ce juif qui venait de l'écouter, de la foule en tout cas, qui ont cru à lui. Et puis, alors c'est ce 32e verset où il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Je me suis demandé pourquoi Jésus... Ces Juifs l'ont vu, ils ont cru en lui, mais pourquoi il a dit « vous connaîtrez la vérité » alors qu'il se désigne comme vérité? Ce n'était pas assez pour qu'ils puissent garder leur foi et puis qu'ils puissent cheminer. Cela m'a poussé à rechercher le sens du verbe « connaître » en grec. Ça rejoint au fait que Jésus a préféré utiliser « ou l'auteur de son » de cet évangile a utilisé plutôt le verbe au futur pour montrer que cette connaissance, ce n'est pas quelque chose c'est un long processus. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait comme ça. On ne connaît pas d'un coup Jésus parce qu'on l'a vu. C'est un cheminement long. Je dirais que même qui dure toute une vie. Parce que la signification de ce verbe, on peut le définir comme c'est apprendre à connaître. Donc, ce n'est pas parce que ces Juifs ont vu Jésus, ont crié à lui que c'était suffisant pour avoir connaître la vérité. On peut aussi définir ce verbe connaître ou ginosko comme venir à la connaissance. Toujours, ça montre cet effort, ce travail, ou obtenir une connaissance. Donc, c'est tout un processus. Ce n'est pas parce qu'on a cru, qu'on a vu Jésus, qu'on a cru en lui, qu'on peut dire qu'on connaît vraiment, on a la vérité. On a la vérité divine. Cette iniquité sans cesse, dans le sens où la vérité divine est telle que Jésus la présente dans ce passage, procède de la foi en Dieu dont il est incarnation. Il y a aussi dans ce verset le mot « vérité » qu'on désigne en grec aussi comme « aletheia ». Étymologiquement, ce mot, on peut le comprendre comme étant l'opposition du mensonge et de l'erreur. Autrement dit, la vérité telle qu'elle est désignée comme Jésus renvoie à la perfection ou à l'excellence. Vous vous souvenez de ce verset qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et Jésus, si on le considère dans ce verset où il se désigne comme vérité, la connaissance de Jésus, en tant qu'envoyé de Dieu, Jésus, dans ce chapitre ou dans d'autres chapitres qui précèdent ou qui suivent, Jésus, il se désigne souvent comme « je suis la lumière », on l'a dit, « je suis le pain de la vie »,« je suis ». Autrement dit, tout comme il se désigne en tant qu'envoyé de Dieu, c'est comme il révèle qui est vraiment Dieu, invisible, mais si on regarde la personne de Jésus, on peut facilement comprendre qui est Dieu. La vérité est révélée en lui tel qu'il est. Et la connaissance de lui fait qu'on puisse vraiment atteindre, comme je viens de le dire, ce cheminement de connaître, de découvrir qui est Jésus. Plus on découvre qui est Jésus, plus on découvre qui on est. Et je pense que ce processus fait que ce que j'ai abordé avant, que la loi révèle le péché, mais qu'il ne rend pas capable à ne pas le faire, plus on connaît Jésus en tant que vérité, plus on se connaît comme pécheur, et plus on découvre le plan de Dieu pour nous rendre capables ou nous délivrer cette emprise qu'on a d'être pécheur suite à la chute. Alors, pour Jean, la vérité, c'est la réalité de Dieu en tant qu'il est plénitude de la vie véritable. Et qu'il peut y associer les hommes qu'il a créés. Pour cet évangéliste, cette vérité se manifeste et se communique en Jésus. Dès lors, la foi en lui est aussi connaissance et accueil de la vérité. Alors, on peut se demander, avant d'arriver à la conclusion, qu'est-ce qu'on attend par cette notion de liberté? J'ai parlé beaucoup de la vérité, mais maintenant, on arrive à la notion de la liberté qui est la conséquence de la connaissance et de la vérité. Alors, on peut dire que la loi de Moïse a pour... Je ne peux pas dire qu'elle avait, parce qu'aujourd'hui aussi, elle est fait autorité dans le judaïsme. La loi de Moïse a pour but de cadrer la vie communautaire du peuple élu. C'est-à-dire qu'en soi, la loi, elle est bonne. Alors, reste alors le vrai problème de se libérer de cette nature pécheresse commune à tout être humain. Vous vous souvenez à l'épître aux Romains 3, 23, où Paul dit tous, il était aussi juif, qui a découvert cette vérité en Jésus. Il écrit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. En réfléchissant sur cette notion de liberté, il y a trois personnages qui m'ont sont venus à l'esprit. Il y a d'abord Nicodème. Nicodème était parmi les Juifs qui connaissaient, qui étaient fidèles à la loi, qui étaient considérés comme quelqu'un de bien. Je ne vais pas lire, vous connaissez l'histoire, mais il est venu de nuit pour voir Jésus. Et vous vous souvenez de la discussion entre Nicodème et Jésus, où Nicodème disait que comme il voyait Jésus, c'est vraiment quelqu'un de spécial, il vient de Dieu. Et puis, Jésus lui répond, vous vous souvenez qu'il lui a dit, si on ne peut pas, je pense qu'il y a, si vous pouvez m'aider, est-ce qu'il a demandé à ce qu'il pouvait faire pour avoir la vie éternelle? Je ne me souviens plus, mais ce que j'ai retenu pour garder ce personnage, c'est que Jésus a dû lui dire qu'il faut naître de nouveau. Ce que je voulais souligner, c'est que la connaissance de la loi, être fidèle à la loi, apparemment, montrait à Nicodème qu'il y avait quelque chose qui l'intriguait chez le personnage de Jésus. Peut-être qu'il se sentait pas vraiment à l'aise par rapport à... Il essayait de faire le bien, mais peut-être qu'il voyait en Jésus quelque chose qui l'intriguait ou qui l'intéressait, d'où le fait d'aller le voir. Et puis, en discutant avec Jésus, Jésus il a dit, lui dire. Et puis, la réponse est de Nicodème à Jésus en disant, « Naître de nouveau, est-ce que je dois retourner dans le ventre de ma mère ?» Et puis, il lui a dit, « Il faut naître par le baptême. » Est-ce que vous... Quelqu'un par le baptême et le Saint-Esprit. Et puis, notre personnage, c'était aussi un jeune riche. Il avait, comme vous vous souvenez l'histoire, il est venu vers Jésus, il a dit, « Qu'est-ce que je peux faire pour avoir la vie éternelle ?» Pourquoi il a demandé ça alors qu'on le considère comme quelqu'un de bien? Jésus lui a dit, « Va faire ceci ou cela, comme c'est écrit dans la loi. » Il a dit, « Tout ça, je l'ai fait depuis mon jeune âge. » Jésus, la Bible nous dit que Jésus, il a entendu, mais il l'a aimé. Alors il lui a dit, « Il te manque quelque chose. Va et vends ton bien, va tes biens plutôt, et distribue-les aux pauvres, et puis viens me suivre. » On se souvient aussi de la réaction de ce jeune riche. Je pense que ce soit Nicodème et que ce soit ce jeune riche, qu'ils étaient fidèles à la loi, ils faisaient tout ce que la loi demandait, mais je pense qu'à l'intérieur d'eux-mêmes, ils sentaient qu'il y avait quelque chose qui manquait. Cette quête vraiment de, chez le jeune riche, ça se voit qu'il cherchait la vie éternelle. Et puis, voilà, Jésus lui met le doigt là où il y avait un problème. Alors, le jeune, on ne nous dit pas la suite. Apparemment, il est parti, il était triste parce que, voilà, il n'était pas prêt pour faire ce que Jésus lui demandait. On voit chez Nicodème, on voit aussi chez ce jeune riche, quelque chose qui les retenait. Et si on parle, c'est une notion de la liberté, je pense que c'est le sens du message de Jésus. Une fois qu'on comprend qui il est vraiment et la vérité qui est révélée en lui, cela nous fait de nous des êtres, pas parler des hommes, des êtres ou des êtres humains vraiment libres, dans le sens où cette découverte de la vérité, comme quelque chose qui nous amène à l'accomplissement selon la volonté de Dieu, ou au salut en tant que plénitude, on n'est plus pris par quoi que ce soit. Et notre personnage aussi, c'était Zachée. On se souvient aussi que je pense qu'il était parmi des personnes qui connaissaient la loi, qui faisaient ce qu'il était collecteur d'impôts. Et puis, comme il était petit, mais il était riche quand même, ce n'était pas n'importe qui, ce n'est pas facile avec son statut de monter comme ça, juste pour voir Jésus. Et puis Jésus, il l'a senti arriver à côté de lui, il a dit, descends, et aujourd'hui je vais, c'est écrit comment, je vais. Oui. Alors pour conclure, je peux dire que la foi, comme ce verset est adressé aux Juifs qui venaient de croire en Jésus, je peux dire que la foi est intimement liée à la connaissance. Pourquoi? Parce qu'on peut pas, on peut pas faire confiance à quelqu'un qu'on connaît pas. Et puis, je pense que le fait de recourir à ces trois personnages qui savaient bien, qui connaissaient bien la loi et qui en étaient fidèles, est-ce que ça se dit être fidèle? Ah, non, ils étaient fidèles à la loi, ils étaient en être fidèles, ça se dit? Mon français, c'est un peu délicat, mais vous comprenez ce que cela veut dire. Ça ne les a pas empêchés de penser, de comprendre ou de réaliser qu'il y avait quelque chose qui manquait chez eux. Autrement dit, alors ça, c'est pour moi, c'est quelque chose qui m'a interpellée, je ne sais pas pour vous. Déjà, ces personnages, on les considérait dans leur contexte comme des personnes de bien. On ne peut rien leur reprocher. Mais ils montrent que quand même, il y a quelque chose qui manque. Ils se mettent en marche pour aller chercher, pour chercher cette vérité qui leur manquait. Alors, en conclusion, je me dis aussi qu'on ne peut pas, ou je ne peux pas prétendre avoir une connaissance parfaite de la vérité, dans le sens où cette vérité résulte de Dieu. Alors, on lit la Bible, on écoute les messages. Est-ce que cela peut nous... On peut dire que c'est assez pour nous qu'on détient la vérité et que c'est assez pour nous qu'on attend tout simplement le retour de Jésus. En tout cas, pour moi, ce que cette préparation mollesse ou m'a laissé, et comme je viens de l'expliquer, cette liberté, comme conséquence de la connaissance et de la vérité, c'est quelque chose qu'on vit dans la vie de tous les jours et puis qu'on ne peut pas vivre en dehors de notre relation avec le Seigneur. Je vais demander à Daniel de me projeter les deux versets et puis je vais vous dire ce qu'on va faire. Après, je vais prier. On va commencer par ce verset qui est en Luc 17, 15, 10. Alors, de même, vous aussi, quand vous aurez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des esclaves inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Ces mots, ça m'est venu comme ça quand je pensais à la question que j'allais vous donner comme partage au moment des groupes. Et puis, pourquoi et en quoi ça complète le message de la connaissance et de la vérité en lien avec la liberté. Ici, il est question de faire ce qui nous a été demandé. C'est bien, comme la loi, comme chez ces trois personnages qui ont mis en pratique ce que la loi demande. Ça peut être mon cas. Je lis la Bible et j'essaie de mettre en pratique ce qu'elle me demande. Mais comme je viens de le dire, Jésus se décrit ou se définit comme la vérité divine, en tout cas, la vérité divine s'est révélée en Jésus. Pour des personnes du temps de Jésus, qui l'ont vu, qui ont écouté sa parole, peut-être que ça pourrait faire sens comme pour les disciples. Mais nous, on n'a pas vu Jésus de nos propres yeux. On ne l'a pas entendu. Je pense que la seule chose qu'on a, c'est la Bible. En dehors de la Bible aussi, je sais que chacun ou chacune, on a fait une expérience qui nous a permis de suivre le Seigneur. En dehors de ce qu'on lit, on mène une relation avec le Seigneur. Mais ce verset peut-être pourrait aussi aujourd'hui nous challenger un peu pour voir en quoi, comment je mène ma vie. Est-ce que je la mène en s'appuyant uniquement sur ce qui est écrit où est-ce que je complète ce qui est écrit ou en lisant ce qui est écrit, j'ai ce cœur ouvert pour que Dieu, au travers de ce que je lis, il puisse me parler et que cette vérité qu'il me communique au travers de ma lecture me permet de le découvrir pour vraiment vivre cette liberté. J'aimerais demander à ce que Daniel me mette le deuxième verset. Je ne vous appelle plus esclave parce que l'esclave ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de mon père. Alors, ce verset, on va, pour le partage, si on a le temps, on va le confronter avec le premier. Il y a le mot esclave, il y a le mot connaître, et puis il y a le mot ami. C'est-à-dire que Jésus, il ne considère plus ses disciples comme esclaves, dans le sens où ils ne mettent pas uniquement en pratique ce qu'il demande. Mais puisqu'ils connaissent Jésus, ils ont l'accès à la vérité. Avec ces deux versets, peut-être en penser aussi avec le Jean 17, où Jésus, quand Jésus a fait la prière pour ses disciples, quand il allait partir, je me suis demandé pourquoi Jésus, avec tout le temps qu'il avait passé avec ses disciples, pourquoi il a demandé à Dieu, à ce que ce verset 3, je pense, 17:3, où il a dit « La vie est qu'on te connaisse, toi, le vrai seul Dieu, et qu'on connaisse celui qui t'a envoyé, Jésus. » Je me suis demandé, en gardant ces deux versets à l'esprit, utiliser aussi le verbe « connaître » au présent, ça renvoie au fait que la connaissance est de la vérité, comme je l'ai dit, pour conclure, c'est pas acquis, la connaissance est de vérité, c'est pas quelque chose d'acquis. Autrement dit, la connaissance est de vérité qui est manifestée ou révélée en Jésus, nous met en mouvement ou en marche pour pouvoir dépendre de notre Dieu par la foi pour que cette relation avec lui nous révèle toujours ou sans cesse ce qu'on a à connaître pour être des êtres accomplis ou pour vivre pleinement le plan du salut qui commence dans cette vie avant de penser la vie éternelle. Je vais prier et puis on peut former des groupes, peut-être de 5 personnes ou de 5 personnes pour ne pas en faire beaucoup. Le but, c'est de voir avec ces deux versets, tout simplement partager ce qui vous vient à l'esprit. Le but, c'est de voir en quoi la connaissance est de la vérité. Et quelque chose qui nous rend des êtres libres. Et puis, vous pouvez confronter ces deux versets, mais au centre de la discussion, ça va, cette question, en quoi la connaissance de la vérité nous rend des personnes libres. Et puis, en confrontant ces deux, regardez ce qui peut ressortir. Ou si vous voulez, vous pouvez aussi partager tout ce qui ne vous limitez pas. Si vous avez des témoignages à partager, donc sentez-vous libre pour discuter autour de cette question, en quoi la connaissance de la vérité fait de nous des êtres libres. Mais vous allez vous appuyer sur ces deux versets qu'on pourrait confronter. Je ne sais pas si c'est clair. Je vais prier. Seigneur, avec mes pauvres mots, j'ai essayé de partager ce que tu m'as communiqué. Je te fais confiance parce que toi, tu es parfait. Tu connais chacun d'entre nous. Et j'espère que tu nous as parlé d'une manière ou d'une autre et que tu vas continuer à nous parler au travers de cet échange. Amen.